RCF.
Bonjour chers auditeurs de RCF, merci pour votre fidélité à notre émission mensuelle consacrée à la vie militaire à Bourges et dans le Cher. Nous poursuivons aujourd'hui l'histoire de notre 95e RI, régiment cher au cœur des Berruyers et des habitants du Cher. Après avoir conté l'origine du 95e RI dans une première émission et l'héroïsme du régiment de la Grande Guerre la fois dernière, nous abordons aujourd'hui avec notre grand spécialiste Jean-Pierre André l'épisode moins connu mais tout aussi glorieux des combats du 95e RI en mai 1940. Mon cher Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour Bernard.
Je perçois en vous encore plus que d'habitude la fibre de l'enthousiasme et de la passion et de l'attachement pour ce brave 95e RI en cette période tragique de notre histoire. Alors, mais avant d'aborder quand même les combats du 95e RI, une première question. Pouvez-vous m'expliquer la devise du régiment qui apparaît sur la pucelle depuis la Première Guerre mondiale, « Debout les morts ».
Oui, cette phrase admirable illustre parfaitement l'héroïsme des soldats français. L'affaire se passe le 8 avril 1915 dans le saillant de Saint-Mihiel, au lieu dit le Bois Brûlé, et plus précisément la redoute du Bois Brûlé. À ce 8 avril, une section et les hommes écrasés de fatigue par plusieurs jours de combat. Les survivants reçoivent l'ordre de passer à l'attaque. Ils sont commandés par l'adjudant Péricard, qui demande à ses hommes de se préparer à l'assaut et ne voyant pas ses hommes, du moins ceux qui étaient encore en état de combattre, bouger beaucoup pour se mettre sur la ligne de départ, pousse un grand cri qui est « Debout les morts ». Et à cette injonction tonitruante, les hommes se ressaisissent et remontent à l'assaut. Voilà, donc ce fait a été rapporté au Sénat par le général Gallieni, et ce qui a donné beaucoup d'éclat et c'est devenu, après la guerre, la devise du régiment.
Merci Jean-Pierre. Alors, une autre question, bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que tout le monde connaît l'engrenage fatal qui mène au déclenchement de cette Seconde Guerre mondiale. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, à la veille de cette Deuxième Guerre mondiale, à Bourges en particulier, quelle est l'atmosphère, l'ambiance, comment se prépare-t-on à cette guerre? Y a-t-il, comme en 1914, la fébrilité et l'enthousiasme?
Non, on ne peut pas dire qu'il y a fébrilité, non, enthousiasme, non. Les hommes qui sont mobilisés en 1939... sont conscients du devoir qu'ils doivent accomplir, ils ne sont absolument pas enthousiastes. Il faut bien voir qu'à Bourges, en ce qui concerne l'animation de la ville, c'est une situation tout à fait extraordinaire. À Bourges, sept régiments entiers ont été mis sur pied dans l'infanterie. Sept régiments d'infanterie et cinq régiments d'artillerie, ce qui fait bien 12 régiments au total mis sur pied de guerre.
Ce qui est énorme.
Ah, c'est énorme, ça représente entre 2 et 3 000 hommes par régiment, mettons 2 500 par régiment d'artillerie, 3 300 par régiment d'infanterie, certainement plus pour le 53e régiment régional de protection, au moins 35 000 hommes.
Bien, alors revenons à notre 95e. Alors le 95e RI, qui est prêt à partir, est-il le même dans son organisation, dans son armement, qu'en 1914 ?
Non. Le régiment a beaucoup évolué. Il est devenu régiment d'infanterie motorisée. Alors, un régiment d'infanterie motorisée, en fait, on lui a retiré ses moyens de transport autonome hippomobile. Et le transport du régiment est assuré par le train des équipages. Ce qui est quand même qui rend le régiment dépendant de la disponibilité de ce train des équipages. Par contre, en ce qui concerne son armement, le 95e RI notamment, qui était parmi les très bons régiments de l'armée française, et puissamment armé. Et c'est un très bon régiment, et notamment en moyen anti-char. Il dispose de, je crois que c'est 35 ou 40 canons de 25 mm anti-char, qui étaient des canons tout à fait efficaces contre des blindés légers et moyens. Il possède des mortiers de 81 mm, des mortiers de 60 mm en assez grande quantité, des mitrailleuses. Enfin, il a un armement lourd tout à fait respectable et qui en fait un outil de combat à prendre en considération.
Le Berry se raconte, Bernard Dupeyrat.
Vous êtes à l'écoute de RCF, Le Berry se raconte, notre invité Jean-Pierre André, historien du 95e régiment d'infanterie. Mon cher Jean-Pierre, le 95e RI part pour le front, et si j'ai bien compris, il est motorisé. Comment est-il engagé dans les combats de mai 1940?
Alors, juste avant de parler des combats de mai 1940, disons qu'il a tout de suite été engagé dès septembre 1939 dans la Sarre, dans ce qu'on appelait l'opération Sarre, dans la région d'une petite ville qui s'appelle Erschein-Giederkirch, et où il est rentré de quelques kilomètres en Allemagne. Puis, le 10 mai 1940, puisqu'on passe tout de suite à la grande offensive allemande, à cette époque, le régiment est en position autour de Boulogne. Il fait partie de la 7e armée du général Giraud. Et la mission de cette armée est de foncer le long de la mer du Nord pour aller tendre la main d'abord à l'armée belge, ensuite à l'armée hollandaise. Donc le régiment part avec l'armée, un peu en retrait de l'armée. Il n'est pas dans les premières unités de pointe. Le 15 mai 1940, l'état-major général des armées s'aperçoit quand même que la percée qui a été faite à Sedan est beaucoup plus sérieuse qu'on ne pensait à l'origine de cette offensive. Et il décide donc de faire tourner Kazakh, si je peux dire, à l'armée de Giraud pour venir s'opposer à l'avancée de ses troupes. Le 15-16 mai, le régiment part dans des conditions tout à fait extraordinaires de la région de Belgique où il était arrivé, au nord de Bruxelles, contourne l'arrière de la première armée qui, elle, était rentrée en Belgique et va percuter, si je peux dire, la 7e armée blindée du général Rommel à la hauteur de Catillon-le-Cateau-Cambrésis. Mais notre régiment arrive dans un état de dispersion. Le convoi qui amenait le régiment a été complètement dispersé dans l'embrouillamini épouvantable de réfugiés, de troupes en déroute, sur les routes. Et il n'est donc pas en situation pour mener un combat très structuré.
Si j'ai bien compris, il n'a pas l'armement nécessaire et l'organisation est profondément en difficulté.
Ah oui, il a perdu dans le ou égaré, si je peux dire, dans les embouteillages, les encombrements du chemin, une partie de son armement. Les unités, en arrivant dans la région du Cambrésis, sont débarquées. Dès qu'elles sont en contact ou à proximité de l'ennemi. C'est-à-dire que le régiment est dispersé sur une zone de 10-12 kilomètres de rayon, une compagnie par ici, une section par là, et il a fallu une journée et demie pour réagglomérer un peu tout ça. Sachant qu'en même temps, les troupes de Rommel patrouillaient toute la région avec leurs colonnes de chars. Donc c'était assez difficile.
Alors, le 95e RI, à l'image de l'armée française, a été défait très rapidement. Bon, je ne vais pas revenir sur les causes de ce désastre, mais je vais poser une question un petit peu provocatrice. Ouais. Est-ce que les soldats de 1940 ont-ils été moins courageux que ceux de 14? Je pense au 95.
Je pourrais très précisément illustrer ma réponse en citant ce qui s'est passé à Catillon-sur-Sambre, là où le premier bataillon du régiment, environ 1000 hommes, s'était retranché dans le village sous l'autorité du colonel Grélot, qui était le chef de corps du régiment, avec le drapeau. Et ils ont résisté pendant 2 jours et demi à la poussée des chars allemands, à la poussée des troupes d'infanterie qui étaient composées d'un régiment de la première division de SS Totenkopf. Ce 95e RI avait affaire à très très rude partie. Le combat s'est terminé le 19 mai au soir, faute de munitions, faute de renforts en hommes. Et le 19 mai, vers 18h30, 19h, le lieutenant Pelé, porte-drapeau du régiment, a étalé le drapeau du 95e RI sur une botte de paille qui était imbibée d'essence, dans la cour du PC du colonel, à Catillon, et sur un signe du colonel, a mis le feu à la botte de paille. Ainsi, le drapeau du 95e RI a été brûlé pour ne pas tomber dans les mains d'ennemis. Aussitôt après, les SS sont entrés dans la cour du PC et ont saisi les officiers et les hommes qui étaient là. Il restait une vingtaine d'hommes qui s'étaient mis, bien sûr, qui avaient présenté les armes et mis au garde à vous.
Est-ce que les pertes ont été sévères pendant ces quelques jours ?
Oui, oui, oui. En 3 jours, je pense qu'il est tombé environ 120 hommes. 120 hommes, c'est-à-dire ça représente 10% des présences sur le terrain à Catillon.
Donc énorme.
Ah bah oui, c'est quand même c'est énorme. Hein. Imaginons la guerre de 14 à 120 morts, c'est-à-dire en gros 30 morts par jour, multiplié par le nombre de jours, vous verrez.
Exactement.
C'est des combats extrêmement rudes.
Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les combats ont duré relativement peu de temps, hein, pendant le mois de mai-juin, mais que les pertes ont été très très importantes au sein de l'armée française.
Et toutes les troupes en contact avec l'ennemi se sont battus, et bien battus. Oui. Notre armée française n'était pas une armée de couard. L'organisation de l'armée, la stratégie n'était pas ce qu'il aurait fallu pour qu'on ait une résistance à la hauteur. Il faut reconnaître aussi que les Allemands n'ont pas joué le jeu. On avait prévu un plan, ils n'ont pas voulu rentrer dans nos plans.
Hein. Exactement.
Mais bon.
C'est vrai que les historiens, maintenant, nous avons suffisamment de recul, s'accordent parfaitement à dire qu'on s'est trompé d'une guerre. On est en retard d'une guerre.
Oui, il faut comprendre aussi les préoccupations du monde politique et des états-majors. La saignée de 14-18 avait été tellement sévère que toute la stratégie qui avait été mise en place, c'était une stratégie de défense qui est beaucoup plus économe en hommes.
Jean-Pierre, encore merci pour ces explications passionnantes sur notre 95e régiment d'infanterie dans la Deuxième Guerre mondiale. Si vous souhaitez vous replonger dans l'histoire de ce régiment, il suffit de reprendre l'ouvrage publié par Agora Défense, La vie militaire à Bourges et dans le Cher aux éditions Lunaires, et aussi un ouvrage écrit par Jean-Pierre André qui s'intitule « Tempête à l'Est » chez Alice Liner, plus particulièrement l'infanterie du Cher en 1939 et 40. Merci Jean-Pierre, merci chers auditeurs de RCF, passionnés d'histoire, bonne semaine et à très bientôt.